cuisiner, chers auditeurs, le merlan et cuisiner aussi un autre poisson mystère dont nous parle Elvira Masson.
C'est dimanche sur France Inter. On va déguster.
Ma petite sirène de Stockholm qui va enfin nous révéler l'énigme. Alors, reprenons les choses du début. Vous nous parliez d'un poisson que vous avez beaucoup consommé depuis que vous êtes petite. Origine suédoise oblige.
Voilà. Et je consomme encore plus dans la mesure où on mange de moins en moins de saumon. Je pense qu'on va y venir.
Parce que Gaëlle Oriot vous a dit saumon, c'était pas bête comme réponse, si je peux me permettre.
Pas du tout. C'est le quand on pense pays scandinave, on pense saumon. Mais on peut penser également.
Roll mop.
C'est trop trop. Ouais. Voilà. Vous touchez du doigt la solution. Un poisson à chair grasse qui a souffert de surpêche par période, notamment du côté de la Manche, de la mer du Nord, des îles Féroé, en Alaska. Ses stocks sont remontés à un niveau acceptable. Les quotas européens demeurent assez stricts. La surveillance est d'ailleurs maximale du côté des côtes françaises à cause de la fragilité de ce poisson, ou plutôt de sa vulnérabilité, lorsqu'il vient s'y reproduire en fin d'année. Je pense que vous voyez à peu près de ce dont je parle, Gaëlle. Le calibre minimum d'achat recommandé d'ailleurs par Mr. Goodfish est de 24 cm. Donc on fait très attention à ne pas consommer de poissons plus petits.
D'accord, donc il faut aller faire ses courses avec un double décimètre.
C'est ça, voilà. Il n'est pas cher. Il est bourré d'oméga 3, d'oligo-éléments, de potassium, de phosphore, de vitamine D. Il n'est pas bourré de mercure ni de PCB. Pas de gros mots là-dedans.
Comme certains poissons carnivores. Ouais. Saumon, thon, pour ne pas les nommer.
D'Atlantique Nord jusqu'aux confins de l'océan Arctique. On le trouve également dans la Baltique, mais la Baltique est une mer quand même encore très problématique. C'est comme une mer fermée, polluée. On le trouve frais, notamment dans les pays scandinaves. J'en croise pas beaucoup en version fraîche, moi, sur les étals des poissonniers
français. C'est vrai que c'est pas
très
fréquent,
hein. Non, c'est pas très fréquent. C'est plus rare. On le trouve salé et fumé. On l'appelle alors sort. On l'appelle keepers quand il est coupé en deux, comme une crapaudine passée dans la saumure. Mm-hmm. On l'appelle buckling quand il est carrément plus boucané, fermenté. On l'appelle roll mops, Déborah, quand il est mariné dans du vinaigre blanc, un peu de sel, un peu de sucre et qu'il est enroulé sur lui-même.
J'adore ça.
Qui est-ce? Qui suis-je?
Le hareng.
Mais voilà.
Bah quand même.
Aux Pays-Bas, on mange. D'autant plus, Gaëlle, que vous lui consacrez une page explicative très intéressante et que vous proposez une recette de hareng chou-fleur qui est assez magnifique et qui me fait de l'œil.
Le principe en un mot, hareng chou-fleur?
Hareng chou-fleur, c'est un peu comme la crème de cresson, c'est que je fais infuser du hareng fumé dans ma crème et pour lui donner un petit goût fumé. Voilà,
c'est donc même, voilà, c'est ça, on est
dans
sur
une purée de chou-fleur. Voilà.
On est sur le même mode d'emploi.
Exactement,
avec le velouté de cresson ou haddock. Elvira.
Aux Pays-Bas, on le mange en sandwich avec des oignons émincés. Mm-hmm. En Suède, on le garnit à toutes les sauces, limite matin, midi et soir. C'est pratiquement le plat national. Je vous livre une recette que j'aime en particulier, que ma mère m'a livré. Ça s'appelle sénapsil. Alors sénap, ça veut dire moutarde. Sil, ça veut dire hareng. Donc hareng à la moutarde, hein, c'est pas compliqué. C'est un plat qui se mange froid. En réalité, en France, ma mère le fait avec des sardines fraîches. Donc j'étais obligée de tricher un petit peu parce que des harengs frais, on les trouve pas, ils sont pas légion. 400 grammes de filet de sardines sans la peau, ou filet de hareng frais si vous avez la chance d'en trouver. Une marinade.
Oui.
Un mélange, la recette en détail est sur le site. Un mélange d'eau, de vinaigre blanc, de sucre en poudre et de sel. Qui dit Suède dit forcément sucre en poudre. Il n'y a pas de marinade sans sucre, ça n'existe pas chez nous.
Oui, mais c'est ça qui apporte le côté, le contraste aigre-doux.
On dispose les filets de sardines dans cette préparation.
Oui.
On réserve au frais pendant une nuit. Voilà, on laisse mariner. Le lendemain, on égoutte les filets de sardines et on les dispose dans un mélange dont la teneur est la suivante.
Oui.
Vinaigre de vin blanc, huile de tournesol, crème fraîche, sucre en poudre, re-sucre en poudre, moutarde suédoise sucrée, parce que sinon il n'y aura pas assez de sucre. Hein.
Bien sûr.
Donc si vous ne trouvez pas de moutarde suédoise sucrée, vous achetez une marque qu'on trouve en supermarché.
Vous voulez parler de la Savoie?
Ouais. Allez, bah oui, mais ça fait la blague. Moutarde de Dijon, crème fouettée, il y a déjà de la crème fraîche, mais on met un peu de crème fouettée quand même. Mm-hmm. Mayonnaise, sel, poivre blanc moulu, un oignon jaune haché, de l'aneth haché évidemment,
et oui,
de la ciboulette hachée. Et vous disposez vos filets de sardines dans ce mélange-là, c'est totalement réjouissant, gourmand, atomique, parfumé. Et c'est une entrée, magnifique. Peut-être un peu estivale, printanière, magnifique.
Et c'est signé Maman Masson.
Oui, elle l'a pas inventé, hein. C'est une recette assez classique en Suède.
Vous la mangez régulièrement?
Ah oui, je mange tout le temps, j'adore
je
ça.
Je crois savoir que la sardine fraîche, c'est pas encore tout à fait la saison, donc il va falloir attendre un peu, Gaël Aurieux.
Oui, c'est plus l'été, c'est plus estival, on va dire.
Mais si on voulait appliquer cette préparation, cette marinade suédoise à un autre poisson, là encore, ça peut être du merlan, ça peut être...
Ça peut être du merlan, oui, ou moi je dirais à la rigueur du maquereau, des petits maquereaux. Voilà,
vous avez le droit d'enlever un petit peu de sucre, hein, si vous voulez.
Voilà. Et je voulais mettre les pieds dans le plat, un autre poisson, vous évoquiez le saumon, on va juste dire un mot, car il y a des polémiques qui enflent, effectivement.
Et on a beaucoup de mails d'auditeurs aussi.
Sur ce poisson à chair orangée, Elvira, en un mot.
Précisément, il y a une nouvelle étude, enfin plutôt un dossier paru un petit peu avant Noël dans 60 millions de consommateurs et également un reportage en Thalassa qui s'alarme du fait que lors des dernières enquêtes, les saumons non bio se portent plutôt pas trop mal en termes de PCB, pesticides, de résidus, de médicaments vétérinaires.
C'est-à-dire, vous dites qu'il y en a peu, quoi.
Il y en a peu. Enfin, ça s'est amélioré.
Oui.
Les saumons bio testés, en revanche, souffrent de chiffres qui sont quand même assez alarmants. L'explication, on ne sait pas forcément... Enfin si, l'explication c'est très bien ce que c'est l'alimentation des poissons bio d'élevage qui n'est pas irréprochable.
Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Qu'aperçois-je ? Ce n'est pas un jardin créole, mais presque. C'est en tout cas un jardin avec des épinards, du curcuma. Tiens, le curcuma pousse aussi dans le jardin de Tonton Léon. Il y a de la betterave. On voit la cuisine avec vous en polychromie, c'est ça, Déborah Dupont ?
Mais exactement, car à l'heure où justement on vient de consacrer quand même une émission donc au bien manger, à la conservation des ressources, au bio, il paraît paradoxal qu'on n'hésite pas en fait à mettre des colorants artificiels, synthétiques ou naturels, mais dépourvus de nutriments et d'intérêts, juste pour rendre la cuisine plus appétissante. Car vous en conviendrez, je l'imagine, une crème à la pistache doit être verte, un yaourt à la fraise d'être rouge, rose. Et c'est vrai que la couleur a clairement un intérêt gustatif, c'est-à-dire que notre cerveau associe certains produits à une couleur. Et c'est vrai que le velouté de cresson que nous a servi Gaël Aurieux tout à l'heure est d'un vert éblouissant grâce au cresson.
Et là, c'est colorant naturel, ouais.
Colorant naturel. Donc, un petit livre vient de sortir aux éditions La Plage qui s'appelle « Cuisiner en couleur, créer des colorants 100% naturels ».
Oui.
Il nous permet de réaliser justement ces prouesses presque de peinture de manière tout à fait naturelle à la maison avec très peu d'équipement. Car on a souvent l'impression que c'est compliqué. Non, là, il suffit vraiment d'avoir un pilon, d'avoir éventuellement un petit mixeur, une centrifugeuse et surtout d'avoir des filtres à café pour passer les préparations.
Alors moi, je mets d'entrée de jeu les pieds dans le plat. Est-ce que c'est pas un peu gadget, a priori, on pourrait se dire comme ça, si c'est pas un peu gadget, justement, de cuisiner des colorants naturels?
Alors, cuisiner des colorants naturels, ça peut effectivement paraître un peu gadget. On cuisine assez rarement du bleu ou du violet. Maintenant, il suffit de se pencher notamment sur la question de la pâtisserie pour se rendre compte qu'on a souvent des gâteaux qui sont colorés, mais qui sont colorés avec on sait pas trop quoi. Or, en utilisant là, par exemple, j'ai un petit flacon, ce sont des fleurs d'hibiscus séchées où j'ai simplement mis de l'eau. Je l'ai mis en début d'émission. Vous voyez tout de suite, ça commence à devenir rouge. On peut faire la même chose avec des feuilles de mauve séchées. On va être plus ou moins bleu, plus ou moins violacé. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il explique vraiment l'incidence du pH, parce que c'est très technique. Donc, selon le pH de la préparation, la couleur va pouvoir virer. L'influence aussi de la chaleur, certains colorants tiennent plus ou moins bien la chaleur. Et là, moi, ce que je vous ai proposé, c'est une petite recette à base du noir. Donc, le noir, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de cuisiner. Donc, ce que je vous propose, c'est de goûter. Là, déjà visuellement parlant, là, je sens François-Régis quand même très perplexe à l'idée
des pâtes de fruits. Non, ça ressemble à des pâtes de fruits.
Au départ, je pensais à des grosses pastilles à la réglisse, recouvertes de sucre. Et c'est pas de la pâte de fruits parce que c'est quand même assez dur. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on s'approche plutôt du sablé breton. Non, ça va plaire à Gaël Aurieux.
Alors, un sablé breton sans beurre, c'est pas un sablé breton. Il n'y a pas de beurre dans cette recette.
C'est plus moelleux.
C'est sésame noir. Ouais.
Exactement, sésame noir.
C'est délicieux.
C'est-à-dire, ce sont des petits gâteaux faits avec trois ingrédients seulement.
Non, mais attendez, c'est dingue, non ?
Je tiens à signaler trois ingrédients. 80 grammes de sucre en poudre. Alors, l'auteur du livre conseille de prendre du sucre roux ou du sucre blond. 80 grammes de farine. 120 grammes de purée de sésame. Donc, la purée de sésame, vous trouvez ça en magasin bio. En plus, c'est très intéressant d'un point de vue nutritionnel.
Purée de sésame noir.
Purée de sésame noir.
D'accord, parce qu'il existe aussi la blanche.
La blanche. Donc là, vous prenez de la noire. Vous mélangez tout ça, vous rajoutez 2-3 cuillères à soupe d'eau pour amalgamer la pâte. On la fait prendre un petit peu au frais, on roule un boudin, on coupe des rondelles et on fait cuire tout simplement 12 minutes à 160 degrés. Donc c'est vraiment tout simple.
C'est entre le sablé et la friandise. C'est délicieux.
Oui, c'est des bonbons
un peu.
Et avec un vrai goût de sésame, avec le moelleux effectivement de cet oléagineux. Donc oui, ça peut paraître gadget, mais à l'heure où effectivement on a envie de faire des repas parfois monochromes, de faire des thématiques pour des fêtes, je pense notamment aux anniversaires d'enfants. C'est vrai que moi j'ai souvent réalisé des gâteaux colorés pour mes enfants en mettant des colorants qui finalement sont peut-être pas géniaux pour la santé. On se pose quand même de plus en plus de questions. Et ce livre m'a ouvert un panel. Là, j'ai de la spiruline. Donc, la spiruline, c'est cette petite micro-algue.
Oui, qu'on trouve, qui est d'ailleurs en fait, très bonne pour la santé, accessoirement.
Exactement, qui est pleine de fer.
Pleine de légumes.
On la trouve en cachet. Il suffit de broyer les cachets au pilon. Vous rajoutez un peu d'eau, ça vous fait une préparation qui est verte. Sauf que si vous le laissez décanter pendant 12 heures, la préparation, vous la filtrez, vous obtenez un extrait bleu. Et j'ai testé, j'ai coloré des lamelles de radis en bleu.
Mais j'ai vu ça parce qu'il y a quand même un chapitre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce petit chapitre, cuisiner en couleur, c'est classé par couleur en fait.
C'est classé par couleur.
Et au chapitre bleu, on trouve en effet d'un carpaccio de fleurs bleues, c'est du radis noir.
C'est du radis noir.
Teint en bleu, c'est vrai que c'est assez joli du coup, le résultat voilà. Est surprenant.
Il y a aussi une recette de risotto qui va être teint en bleu violet grâce à du chou rouge.
Mm-hmm.
Donc il y a plein de variantes. Franchement, c'est un petit livre que je conseille à toutes celles et ceux qui ont besoin ou qui ont envie de faire des repas colorés. Et je pense vraiment notamment sur la partie dessert aux anniversaires d'enfants. C'est vrai qu'il y a un moment où enfin, je pense qu'Elvira et François-Régis, enfin, vous êtes totalement d'accord avec moi.
Oui.
On essaye quand même de donner bien à manger à nos enfants. C'est pas non plus pour tout s'aborder en mettant des colorants. Finalement, ils sont peut-être pas aussi inoffensifs que ça. Et d'ailleurs, je vous conseille d'écouter le podcast de l'émission Grand Bien Vous Fasse, qui le 31 janvier dernier a en fait traité de la question de l'alimentation des enfants, de la nocivité de certains produits, dont des colorants alimentaires, et qui avait déjà un petit peu parlé de cet ouvrage. Donc, Cuisiner en couleur, de Sandrine Costantino aux éditions La Plage, et qui vaut 13,50 euros ce
moi,
petit livre.
Moi, le prochain goûter d'anniversaire de mes enfants, c'est Boisson du Vampire. Regardez cette belle couleur grenadine.
Ah, c'est
avec
quoi, c'est hibiscus?
Non, des pétales de coquelicot, des cuillerées à soupe de pétales d'hibiscus séchés, vous en parliez. Il y a un peu de jus de citron, un tout petit peu de sucre, de l'eau. Et il paraît que c'est très bon.
Repassez-moi un petit sablé, sésame, s'il vous plaît.
Un petit diamant noir.